las conferencias de Radio Languedoc. En 2014, l'Universitat Occitana d'Estiu de Nimes s'est donat la thématique del centenari 1914-2014. Dins aquel encastre, Michel Lafon venguet presentar son estudi sur la place de l'Occitan, lo patuès, dins l'escola publique al segle XX. Aquí, avec la première part d'aquelle conférence, fuguet registrada lo 6 de juillet de 2014 à l'Universitat Occitana d'Estiu de Nimes.
Espera que la segunda jornada de l'Universitat Occitana d'Estiu anem a parlar d'història i per començar ara recebem Miquel Lafon que profite de sa retirada per reprendre els estudis i sou content que vengui d'ell perquè eren estudiant ensenyant a la Facultat de Pau Valéry a Montpellier. I era la mateixa època. Et donc, à commencer par l'UDEG, à continuer à la licence, puis le master, et à acabar par faire une thèse. Et donc, son thème de travail est l'école et l'Occitan. Donc, c'est basé sur des testimoniages qu'a recueilli dans un vaillon son département, et à qui a parcouru un peu toute la route du département, avec sa caméra pour filmer le monde. Et donc, on a recueilli des testimoniages fort intéressants que vous va présenter à qui. Donc, Miquel.
Merci, Estelle. Pour décrire l'Occitan et l'école, et en Aveyrou, l'Occitan, c'est sûr qu'encore, c'est évident, c'est un pays d'Occitan, en Aveyrou. Second domaine, pour que l'Aveyrou, parce que je suis d'Aveyrou, je suis nascut à Saint-Afrique, et j'ai fait toute ma carrière en Aveyrou. Et finalement, perché à l'école, perché fu bien élevé toute ma vie, donc j'ai essayé de voir comment les choses se sont passées, d'empier la début, les premières entreseignes qu'il y avait, fins à continuer en français, parce qu'il fasse un petit papier roux en français. Non, encore vous agrade pas? Ah, oh, écoute. La thèse est en français. Oui. L'Aveyron, territoire d'Occitan, depuis le début, les premières chartes de 1102, la première qu'on ait trouvée, et ensuite une fune des cartes del Templier, c'est tout à quoi. Le comte Henri XII qui a une courte amée des poètes et amée Dodé de Prades, Raymond Jourdan, Hugues Brunec de Rodez, etc., des troubadours. Le roman des flamencos que Saïque Ben de Nantes, à Costa de Millau, d'une abatte. Et tout à coup, fait qu'il y a une fune des causes qui se passent en Occitan, la langue résististe avait à l'édit de Villers Cotterêts, de François Ier, parce que c'est trapeau des cartes et des lémènes, des notaristes, tout à coup. Après, l'édit de Villers-Cotterêts, d'indil les annados, l'Udarier, 1656, donc, c'est-à-dire que, encore la langue, le français, n'est pas acquis, et l'Occitan est toujours en place. Fau aquí des sauts un peu rapides, pour arriver à la Révolution, que, vous savez, que, il y a eu l'enquisto de l'abbat Grégoire. Hein. Donc l'abbat Grégoire a posé des questions. Et Père Laveyrou est une curate, une abbat de Saint-Geniès-d'Olt, Laveyrou, qui répond. Alors, à quoi permettre d'avoir une idée, une vieille de bere la lingua que si era utilizado, si se parlava o no. Je prends quelques questions. Question 17, parlant du patois, le parle-t-on dans les villes? La V répond, il n'y a point de ville dans ce département où les savants et les riches ne parlent patois, et c'est là la langue commune des artisans. Les campagnards savent-ils également, question 19, s'énoncer en français? Non seulement les campagnards, mais les trois quarts des citadins, des habitants même du chef-lieu du département, ne savent ni parler, ni écrire, ni lire le français. Question 32-33. Chaque village est-il pourvu de maîtres et de maîtresses d'école? Outre l'art de lire, d'écrire, de chiffrer et le catéchisme, enseigne-t-on autre chose dans les écoles? Alors, ça donne un état de la situation, un état de la scolarité à ce moment-là. L'éducation est plus négligée dans ce département que partout ailleurs. L'on n'a des maîtres que pour ceux qui les paient. Et en général, les paysans étaient trop grevés de gabelles, les droits féodaux et les dîmes pour envoyer leurs enfants à un maître d'école où l'on n'apprend d'ailleurs que le catéchisme. Les paysans les plus cossus se ruinaient autrefois pour faire apprendre le latin à leurs enfants afin d'en faire des prêtres. C'est la situation, et ce qui est intéressant, c'est surtout la réponse à la question 29 et aux questions 29 et 30. Quelle serait l'importance religieuse et politique de détruire entièrement le patois du département de l'Aveyron? Question 30, quels en seraient les moyens? Et là, l'abbé Chabot donne ses raisons. Nous sommes tous français, nous ne devons avoir qu'une même langue. La multiplicité des idiomes pouvait être utile dans le 9e siècle. Évidemment, c'est apparu un peu plus tard, et sous le trop long règne de la féodalité. C'est-à-dire que l'abbé Chabot, on le sait, a été caressé dans le sens du poil les révolutionnaires. Il a été un peu du vent qui tournait, il faut dire les choses. Et donc, il charge beaucoup la mule concernant l'Ancien Régime, et il se fraye un passage dans tout ce qui est les nouvelles structures, les nouvelles lois, et surtout essayer d'avoir des contacts avec les révolutionnaires. Alors, aujourd'hui, nous avons tous la même loi pour maître. Aujourd'hui, que nous sommes tous français, nous ne devons avoir qu'une même langue, comme nous n'avons tous qu'un même cœur. Selon les vœux de tous les bons citoyens, la France devient jamais le centre de réunion de tous les peuples libres. S'ils adoptent un jour sa constitution, ils adopteront aussi probablement sa langue. Il importe donc à la gloire du nom français de la rendre générale, au moins à tous les habitants de l'Empire. Et ainsi de suite, il donne les raisons pour lesquelles d'autres raisons. Dans peu, le peuple serait instruit. Il ne serait plus la dupe du charlatanisme des prêtres, c'est un prêtre qui parle, hein, ne l'oublions pas, ni de l'ambition des despotes. Tous les hommes liraient dans peu les livres des lois civiles et religieuses. Ils seraient religieux comme il convient de l'être, sans fanatisme et sans superstition, et surtout, ils seraient tous d'excellents citoyens. Donc, le courant est en faveur d'une seule langue, du français, et Chabot va dans ce sens, même si on peut penser qu'il avait quand même des antennes, il savait ce qui se passait dans le département de l'Aveyron, et il pouvait affirmer qu'effectivement le français n'était pas encore entré dans les mœurs. Ou en tout cas dans les habitudes des habitants de l'Aveyron. Vous savez que le rapport, ces différents rapports, ont été synthétisés par l'abbé Grégoire, et finalement, bon, il n'en est rien sorti. Alors, on a fait un état des lieux, plus ou moins objectif, mais... par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'abbé Grégoire cite toutes les langues régionales, les patois, et c'est intéressant, le bas breton, le normand, le picard, le rouchy, le wallon, le flamand, le champenois, le messin, le lorrain, le franc-comtois, le bourguignon, le bressan, lyonnais, dauphinois, auvergnat, poitevin, limousin, provençal, langoustin, etc. Donc on voit quand même qu'au niveau de ce qu'est la France, le français est loin d'être majoritaire. C'est évident. Donc, il n'est rien sorti de particulier de ce moment-là. Simplement de cet épisode, nous arrivons à Guizot en 1833, où nous pouvons déjà là parler de l'école avec un peu plus de précision, puisque vous savez qu'à ce moment-là, Guizot a mis en place les écoles normales hein, en 1833. Celle de Rodez a été mise en place en 1835. Et il faut dire que pour tout le département, la première session comprenait 12 élèves maîtres. Pour tout le département, on peut dire que c'est plus que léger. Hein. 12 élèves maîtres et quelques-uns qui participaient à des stages de temps en temps au sein de l'école normale. L'école normale qui était rue Saint-Luc, là où j'étais normalien moi-même, à l'école normale de filles, puisque l'école normale de filles n'a été instaurée, elle, qu'en 1889, c'est-à-dire 50 ans après. Hein. Alors, je voulais préciser que faire un rapide tour d'horizon de la situation des écoles, puisqu'on a l'Occitan et l'école, il faut essayer de se replacer un peu dans la situation telle qu'elle était à ce moment-là. Par exemple, peu avant la Révolution, il y a un évêque de Rodez, champion de Cissé, qui pose des questions dans les paroisses à propos de l'enseignement. Et par exemple, en Aveyron, au Bain, il y a un maître d'école auquel la ville ne paie que 120 livres et deux sœurs de charité, dont l'une est chargée de l'éducation de la jeunesse et l'autre des soins des pauvres. À Cantoin, il y a un maître et une maîtresse d'école en hiver, qui n'ont d'autre honoraire que celui que les parents de leurs élèves leur donnent. À Entragues, il n'y a point de maître d'école depuis 2 ans. Les religieuses sont obligées par leur institut à faire les écoles aux pauvres filles. Elles les font tous les jours dans une chambre du couvent. On pourrait continuer comme ça. À Sauveterre, il y a une maîtresse d'école, une demoiselle de la Providence de Toulouse. Il n'y a point de maître d'école, quoi qu'on en demande, depuis plus de 12 ans. Ainsi de suite. À Rodez, chef-lieu du département, il existe déjà un peu d'instruction primaire à dispenser à quelques 200 garçons par les frères de la doctrine chrétienne dans une école Notre-Dame. Une 60aine de filles sont reçues par les religieuses dans plusieurs couvents. Donc on voit là que l'enseignement, à ce moment-là, il ne faut pas le calquer sur ce qui existe aujourd'hui et sur ce qui a existé, en tout cas, dans le XXe siècle. Après cet état des lieux, et le fait que soient mises en place des écoles normales et une formation des enseignants pour essayer de diffuser le plus possible le français, se mettent en place les règlements scolaires. Alors, je voudrais vous donner juste une image du règlement des écoles primaires de Rodez. Règlement des écoles primaires de Rodez, 1837. Et c'est là que nous trouvons le fameux article, enfin là, on le trouvait bien avant, mais ici c'est l'article 6. Il est défendu de s'absenter ou d'arriver tard sans raison légitime, de rester couvert sans la permission du maître, de parler patois entre eux, de faire sans permission aucune vente, etc., d'aller au lieu plusieurs à la fois. Donc on met le patois avec le fait d'aller aux toilettes. Tout ça fait partie des interdits. Donc, je dois dire qu'on trouve ce genre d'articles dans bien des départements. J'avais relevé ici, pour mémoire, en Ariège, les élèves ne parleront jamais patois, ni avec leur maître, ni avec leurs condisciples. Dans le Puy-de-Dôme, Lot-et-Garonne, il est défendu d'y parler patois. Tarn-et-Garonne, il est défendu de parler patois, même pendant les récréations. Ensuite, dans la Creuse, on ne parlera jamais patois, ni dans l'intérieur, ni autant que possible en dehors de l'école, etc., etc. Donc, il y en a un peu partout, les interdits sévissent, et donc, en Aveyron. Alors, de cet interdit découle évidemment dans les interventions des inspecteurs des propos qui vont dans le sens de l'interdit. Je voudrais donner le propos d'un inspecteur Kaukanas qui écrit en 1835 aux instituteurs. C'est un fait malheureusement trop certain que le Rouergue n'a pas atteint le même degré de civilisation que la partie septentrionale de la France. À quoi attribuer ce retard? À plusieurs causes qu'il serait trop long d'énumérer, mais plus puissante et la moins douteuse est l'influence du patois. Que penser d'une contrée où un idiome grossier, chargé de 1000 dialectes, se mêle, se confond sans cesse avec la langue nationale, où les gens instruits sont obligés de recourir à ce jargon barbare pour se faire entendre. L'inspecteur qui parle. Et n'est-ce pas aussi cet idiome grossier qui donne à nos campagnards cette âpre sauvagerie devenue proverbiale? Si les élèves de nos écoles et même de nos collèges parlent mal français et ont une prononciation détestable, ne faut-il pas accuser l'usage habituel du patois à l'extérieur? Donc, il est évident que quand un inspecteur tient ses propos, les instituteurs se posent des questions et essaient dans leur classe de faire en sorte que le patois ne soit pas trop évident. Bien que les élèves parlaient patois, c'est évident, c'est certain. Un autre inspecteur qui donne une conférence à la Guiole, je ne voudrais pas, messieurs, puisque bon, c'était séparé, les instituteurs avaient leur conférence pédagogique et les institutrices, leurs, il n'y avait pas de mixité. Je ne voudrais pas, messieurs, vous paraître un implacable ennemi du patois. Je n'ai pas la moindre aversion pour ce parler qui fut celui de mon heureuse enfance et que j'appris de ma mère. Au contraire, je l'aime, ce doux langage du midi, brillant et chaud comme le soleil, harmonieux comme les flots d'azur de la Méditerranée, coloré comme les fleurs qui parfument nos montagnes. Je l'aime, et cependant, je ne le parle plus. Je me suis fait une règle de ne jamais plus le parler, et je vous engage à faire tous comme moi. Peut-être me suis-je trompé, messieurs, mais j'ai cru m'apercevoir que quelques-uns d'entre vous ne font usage du français que dans l'intérieur de l'école. Au dehors même, au foyer domestique, ils parlent exclusivement l'idiome local. C'est une faute, une fâcheuse habitude à laquelle je voudrais vous voir renoncer. Et il continue un peu plus loin. « Réfléchissez un peu, je vous prie, messieurs, et vous comprendrez pourquoi tant de gens instruits autour de vous ne parlent français dans l'occasion que très imparfaitement et avec une difficulté grande. C'est qu'ils ont, ainsi que vous, l'habitude presque exclusive de parler patois. C'est le patois qui les gêne et les embarrasse. Ils déteignent sur leur français, ils le gâtent, ils le souillent, il en trouble la limpidité. Le loup et l'agneau, ça va de soi, tu la troubles, te dis-je. » Voilà donc les propos d'inspecteur Kaukanas ici. Alors, j'ai trouvé les gens qui étaient à la conférence pédagogique avec toutes les autorités locales, mais je n'ai pas trouvé qui était ce MEN, il signe MEN, cet inspecteur. J'ai demandé même à l'inspection académique, parce que je ne voulais pas donner un document, et bien je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas s'ils ont un listing particulier quelque part, ça doit se trouver, je ne sais pas. Enfin, le fait est que c'était sur le bulletin de l'institution publique, c'était rapporté comme compte rendu de conférence pédagogique, etc. Donc, il est certain qu'il n'y avait pas de, il n'y a pas de doute quant à l'existence de ce rapport. Alors, face à ces attaques contre les patois, il est évident que se mettent en place, bien sûr, toute une série de procédures pour faire en sorte que les élèves apprennent le français. Mais il est évident aussi que le patois résiste. Patois, je mets entre guillemets, j'emploie le mot parce que dans l'enquête et les recherches que j'ai faites, les anciens ne parlent pas occitan, ils ne disent pas occitan, ils disent parlent, n'entres parlent patois. L'occitan, ça ne vient pas des Quesacours. C'est une. Parce que c'est rentré dans le vocabulaire et que donc, c'est évident que ça reste le patois.
Las conferencias de Radio Languedoc.
Alors, il y a une enquête qui a été faite, vous le savez, par Duruy, puisqu'on repart sur l'Occitan et l'école, l'état des lieux, de Duruy qui avait demandé, je lis les questions, existe-t-il des écoles où le ministre de l'Instruction publique, en 64, et donc il avait posé les questions à ses inspecteurs, existe-t-il des écoles où l'enseignement est encore donné en patois exclusivement ou en partie? Nombre des écoles où l'enseignement est donné en totalité en patois, en partie seulement, combien d'enfants ne savent pas encore parler la langue française, combien savent la parler sans pouvoir l'écrire, quelles sont les causes qui s'opposent à une prompte réforme de cet état des choses, quels sont les moyens employés, etc. Alors, pour ce qui concerne le département de l'Aveyron, la réponse est celle-ci, plus de 90% de la population ne parle pas français. Que ce soit dans le Gers, l'Ariège, enfin, il y a plusieurs départements qui ont été pris en compte, c'est le Gers, l'Ariège, l'Aveyron, le Var. 75 à 90% dans le Tarn et le Lot, 60 à 75% dans l'Hérault. Dans l'Aude, l'Aveyron, l'Hérault, ce sont 20 à 30% des enfants de 7 à 13 ans qui ne savent ni parler ni écrire le français. 10 à 20% dans le Cantal et le Tarn. Donc, il semble qu'il y ait une certaine progression très légère auprès des plus jeunes. Voilà ce que l'on peut dire. Je voudrais ajouter, parce que là nous parlons des interdits et de l'enseignement public, ou l'enseignement en général, parce que l'enseignement public bien sûr, mais il y a aussi l'enseignement confessionnel ou privé. Le fait que l'Église ait aussi apporté son petit grain de sel et son coup de main à l'éradication des patois. Ainsi, dès 1800, je cherche la date exacte, je l'ai perdue, c'est Monseigneur Croisier, c'était en 1844. 1800, donc, peu après ce que demandait le ministre, en 1844, Croisier, Jean-François, je cherchais le prénom, Jean-François Croisier, qui demande expressément à ce que soit employé le français dans les prêches, dans les écoles, etc. Et il dit dans ses mandements, puisque ce sont des mandements qu'ils envoient à toutes les paroisses, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit, messieurs les curés enseigneront toujours la lettre du catéchisme en français. Et article 2, ils s'appliqueront à multiplier les instructions en langue française selon la facilité de leur paroisse à les comprendre et à en profiter. C'est-à-dire que il y a encore des difficultés à se faire comprendre en français, et donc ils sont obligés, les curés sont obligés d'utiliser l'occitan. Il y a bien sûr des attaques qui sont menées contre les patois, mais il y a aussi des personnes qui défendent le patois, l'occitan. Donc, je citerai comme ça au hasard Jean-Baptiste Vézy, le bibliothécaire à Rodez. Pierre Vernet, qui a fait des poésies patoises, qui est né en 1806 et mort en 1878, donc c'est bien dans le siècle. Artémon Durand, dit Loupicoural, qui était instituteur, qui a animé des fêtes scolaires et qui a fait notamment un livre sur des chants qui ont été mis en musique par Léon Froment, que l'on retrouve toute une partie du siècle, tout au long du siècle. Jean Carbonel, un instituteur aussi, Louis Alvergne, qui fait partie de la Société des Lettres et qui est en même temps fait libre par la suite quand le félibrige a été créé. Un peu plus tard, l'abbé Aimé Vessier, qui a fait un dictionnaire patois français, dictionnaire patois français du département de l'Aveyron. Durand de Gros, le philologue linguiste, qui a défendu le patois pour mieux apprendre le français. Dans ses articles dans la presse, il dit « oui, c'est une langue qui se perd, elle se gâte, mais lui, c'est pour revenir un peu en arrière, c'est-à-dire il faudrait employer la langue des troubadours, enfin, etc. » Donc, mais des gens qui se préoccupent quand même du patois. Évidemment, quand nous arrivons à la fin du siècle, c'est l'abbé Justin Bessou. Alors là, c'est le chantre du patois en Rouergue, avec son fameux livre d'Albrecht à la tombe, où là, bon, c'est de Verso au tombeau, donc c'est toute la saga de sa vie champêtre, disons, de sa vie à la campagne, et qui a fait aussi que pas mal de livres sur l'oncle Jeannet, la tata Manon, enfin, etc., et des risoulettes, proverbes et des vinaigrolles, par exemple. J'insiste parce que c'est celui qui était dans toutes les maisons en Aveyron. On avait les proverbes, les devinettes de l'abbé Bessou. Et on avait son premier livre d'Albrecht à la tombe. Donc, il y a quand même des gens qui défendent le patois. Alors, seulement c'est la période aussi où arrive Jules Ferry et les lois sur l'école qui ont fait énormément de bien, mais qui ont officialisé les règlements avec le fameux règle, le français, l'article où le français sera seul en usage dans l'école. Et dans le pour ce qui est du département de l'Aveyron, l'article 10 est stipulé ainsi, le français sera seul en usage dans l'école et dans ses dépendances. On ajoute un petit quelque chose en plus, c'est-à-dire dans la cour, à l'extérieur de l'école, aux environs. Donc, la lutte contre le patois prend une dimension un peu plus forte. Je voudrais donner une idée là aussi de ce qui se passe dans les écoles au niveau des réceptions de ces articles de règlement. Des instituteurs sont montés à une exposition en 1878. Et ils ont écouté Bréal, et ils reviennent en disant « Monsieur Bréal a été mal inspiré, suivant nous, c'est lorsqu'il s'est déclaré l'ami des divers patois, qui sont de vraies plaies pour nos études, pour nos élèves des campagnes, qui non seulement gâtent leur accent pour la vie, mais encore retardent énormément les progrès. » C'est Monsieur Delmas de Réau-Pérou qui parle ainsi, il était délégué à cette exposition. Un autre qui dit l'unité française aurait-elle encore quelque chose à redouter de la diversité des patois? Non, a-t-il dit, et les tristes événements où la fortune de la France a failli tomber l'ont suffisamment prouvé. Il y en a certains qui attaquent le patois, d'autres qui le défendent. En Ajac, conférence pédagogique, M. Agussol dit: la réunion déclare que le signe employé pour combattre le patois présente beaucoup d'inconvénients et qu'il vaut mieux ne pas l'employer. Alors le signe, c'est le fameux signal. Donc je vous montrerai quelques témoignages de l'utilisation dans le film que nous allons voir tout à l'heure. Donc je pourrais citer comme ça des comptes rendus de conférences pédagogiques à Sauveterre par exemple. Il est dit, pendant la récréation, le maître doit intervenir lorsqu'il y a des discussions entre les élèves, lorsqu'il parle patois ou prononce des paroles grossières, en un mot, toutes les fois qu'il y a quelque chose à redresser. Le patois, les paroles grossières, tout ça mis ensemble. Il y a une conjonction entre le fait que les élèves continuent de parler patois, mais il faut l'interdire. Les maîtres qui hésitent parce qu'ils peuvent, pour se faire comprendre, ils doivent encore utiliser le patois. Donc, il y a, c'est évident, une volonté d'imposer le français au détriment du patois. Ceci apparaît aussi dans la presse. Dans la presse, il y a des articles, mais curieusement, ce sont plutôt des articles pour défendre le patois. Et des articles qui sont en patois. Le Journal de l'Aveyron, le narrateur Villefranchois, diffuse pas mal d'articles qui défendent le patois. Tous vont dans le même sens, la belle langue, la langue du pays, la langue parlée par nos ancêtres, etc. Donc, c'est une lutte, en quelque sorte, qui est menée entre partisans et défenseurs du patois et opposants. Bien que des articles s'opposant vraiment au patois, dans la presse, il y en a très très peu. Je voudrais dire un mot avant de vous projeter quelques images sur le fait que même au niveau des lycées, par exemple pour des remises de prix à Villefranche de Rouergue, il y a eu plusieurs interventions sur plusieurs années de professeurs qui faisaient un laïus pour féliciter les lauréats, etc., pour défendre le patois. Ça veut dire que la situation est en train de changer d'une opposition d'attaque frontale. Il y a des gens qui, petit à petit, ont tendance à défendre le patois et même le défendre fortement, puisque remise des prix, c'était devant le préfet ou le représentant du préfet, quelquefois l'évêque à Rodez, etc. Donc c'est bien mettre en évidence la langue d'oc. J'ai parlé du signal. Vous savez ce que c'est, le signal? On a un élément, un morceau de bois, une pierre, etc., à un élève. Lorsqu'il parlait patois, et lorsqu'il entendait un copain qui parlait patois, il devait le lui remettre, et celui qui avait à la fin de la journée. Mais, je vais vous montrer quelques exemples. D'une part, sur l'utilisation du patois. Deuxièmement, sur petit à petit l'interdit, et ensuite sur l'utilisation du signal qui est vraiment marqué. Alors, ces témoignages ne sont pas du 19e siècle, ça va de soi. C'est pour montrer que la lutte contre les patois a continué au 20e siècle. Les témoins que j'ai pu rencontrer, malheureusement, bien nombre d'entre eux ont disparu, ils étaient nés au début du 20e siècle, 1907, 1908, 1910, mais ils étaient à l'école dans les années 1920, 1930, où on voit que l'utilisation du signal est bien en place, et où ils témoignent que vraiment, ils utilisaient le patois en permanence dans la vie de tous les jours, dans la famille, ou avec les voisins, ou autre. Juste une précision, ces films ont été faits comme ça tombait. J'allais pour rencontrer des gens, pour discuter avec eux, et puis comme j'avais le magnétophone en panne, j'ai pris le magnétoscope et j'ai filmé. Mais c'est un vieux magnétoscope de famille. Les vues sont quelquefois un peu, sont pas très bonnes. Quelquefois le son aussi laisse à désirer. Mais je pense que les témoignages valent le coup.
On était des enfants courant dans les ruelles, des oiseaux de printemps chamailleux et rebelles. On parlait un français émaillé de patois. Notre maître d'école nous tapait sur les doigts. On parlait un français émaillé de patois. Notre maître d'école nous tapait sur les doigts.
Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu parce que...
Ces propos recueillis
je vais...
les doigts
à la tête. Est-ce qu'on se parlait en patois, c'est entre nous et France?
Non, le maître Scovion parlait en français. Alors, on comprenait quoi que nous parlions, quoi que nous parlions. Nous ne comprenions quand même pas parce que... Bah, yo me Scovion me entendait parler, mais... Parlamento sul patois e allora quella difficile per tappare il francese dove a fare sapere un sabbiao che alla campagna era accostumato a parlare patois e no finisce un po' mental o quello gli faceva ridere.
Vous connaissez le patois?
Oui,
oui, le patois.
Moi, toujours parle le patois parce que j'ai travaillé avec mon père dans les champs, dans les prés, dans les...
On parlait toujours le patois.
Se parlava patois a scuola, me lo difenso, os roles,
che patois?
Oui. E il maestro impacciava di parlare patois?
No, non me ancora, ma che patois? Ma il cuore non. Però è francese.
Oui.
Ma la recreazione entrante, ma che patois? Ma
c'est pas toi, là, tu, putain, tu... Allez, bon, voilà, il boulot. Bonne... Ça vient des putains. Ça vient de m'arranger.
Oui, oui. Et en Australie, c'est par là, au bateau est.
Oh, oui, tout le...
C'est à dire, l'inconvénient de qu'elle parle pas portugaise, je le trouverai à l'école. Parce qu'il y a bien que parlait français. Et les autres qui venaient comme moi et maïtes, parlaient pas portugaise.
Des noms, c'est parlait pas portugaise. Oui, la famille, les voisins.
Oui, 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 parlaient pas portugaise.
E quando si andava alla scuola, comunque, si parlava lo stato?
Tutti.
E lui andava alla scuola a Vino Cantal, poi a Campiac?
Sì, a Campiac.
E a Catecini, se parlava il patuese?
Oui, lo sapevo. Mi mangiava nel cubino.
Ah, oui.
Ma nessuno parlava il patuese, tutti. Oh, oui. No, al contrario, le cure. Ma che le cure, mi dirò su Marie Calvera, che era marcato qui a Bourignan, che parlava anche patuese. Lo su Santalo, pareil.
En trenes, nos parents parlaven patois.
A l'hostal parlaven pas que patois.
E a nos defens també?
A menos roles també.
A menos roles també.
Jo aprenia lo francès a l'escola. A l'hostal no parlaven pas. Lo francès, jo hi ha un confessional que entrava, jo hi ha aquel castellano que se feia en francès. De notre père, de Jean Salut, le croix en Dieu, et pas mal. Le reste, elle a pas de sortir. Et renégat, ben empatès.
Et la famille, c'est pas la patouesse.
Ah, pour le bacaco.
Ouais, et l'autre, c'est un mec.
Elle est gosse, c'est un mec. Mais je vais aller à l'école. Pour la pas que patouesse.
Ah.
Ouais, pour la. Mais ça vient pas pour l'autre, mais. Ah. Je le pitié, mais comme je m'escapais, parce que. C'est pas pour la prince.
À l'hôpital, c'est pas la patouesse.
Oui, pour la pas que patouesse.
Ouais.
Je parlais français, mais je savais parler patois, parce que mes parents parlaient patois, et je parlais les deux.
Vous parlez les deux. Et il y avait des copains qui devaient parler patois.
Tous.
Et chez vous, on parlait patois?
Ah oui. Quand j'étais à l'école, on ne savait pas un mot français.
Ah bon?
Pas un mot. Tout le monde ne parlait patois. Il y avait, à part les fils de l'instituteur qui savaient parler français, les autres, tous, on ne parlait pas de toi, ça. Quand on commençait l'école, il n'y avait personne qui savait parler en français.
Oui, c'est sûr. Dans votre famille, on parlait occitan.
Ah oui, on parlait que pas toi. De la maison, c'est ouais, ouais. Le village, on parlait que pas toi.
Tout le village, on parlait que pas toi.
Ma grand-mère, elle a fait couleur, mais ces hommes, il y a 80 000 personnes, on ne connaissait pas mot de français.
Moi, je n'ai pas eu l'instituteur, ni l'instituteur.
Alors, il y a l'interdit, il y a l'interdit complet, il y a une tolérance, ça dépend.
Bien sûr, oui.
Contre un copain, des fois, il parlait en français, mais il nous faisait nous griser. C'était interdit.
Mais... Et Patrick, vous n'avez pas la patronaise à l'escola?
Oui.
Oui.
Le fourquier, le pasteur, même la sœur, on ne pas. Quand le pauvre, vous y vont. Vous avez les quatre temps.
Quatre temps.
Présent, on parle plus pour ses sœurs d'habitude.
Oui.
Je parle vraiment partout. Ah.
Quatre temps. C'est qu'il y a
une
fille. Quel est le
maître? Le maître est comme un jardin nommé Broussal.
Broussal.
Qui est une carrière de vie, il n'est pas mort.
L'albiste.
Et Marc.
Et Marc, oui.
Voilà.
Et Broussal, vous ne pouvez pas que ce paraît, c'est...
Broussal disait pas trop vrai, parce que Broussal faisait l'école à l'époque, à Pizzinit.
Ah oui, à la début, oui.
Quand je paye comme machin, on me marque,
oui.
Que, qui est comme moi avant.
Ah, oui.
Ah, il voulait pas entendre par rapport à toi.
Ah, Marc, vous ne voulez pas entendre par rapport à toi.
Non.
Par rapport à toi, c'est votre stade.
Je me sens bien dans la messe, lui.
Ah oui, et on pas commandé.
Les verbes, je parlais pas toi, les frions en nord-ouest, c'est à l'époque.
Oui.
Alors, avions toujours un verbe, fait un nord. La costa dell'Orduese era fatta per il ricreo, sì, comunque nel giro va. Ne parli per tua per andare alla classe o dalla cu. Russo detto. E qui, già che è, la prima, il cielo andre le poco,
ah, oui.
Si carava.
E mi sono impazzato di patuese in classe, sicuro.
Ah oui, vai dalla cu, guarda, parei.
Ah oui.
Parei, ma è parato qua.
E gli abbiamo poi, gli abbiamo dunque la spedizione per fare
oui.
un verbe o delle linee,
d'accordo?
lo recennero in espanto di Borges, che era passato, era stato fraile di San Viatura. E dal cap della la prima o la seconda annata, e cominciate a fare la guerra all'Occitano. E io fai, per lì, per svegliare l'umero, per le scuole di monaci, era solo tattica, era il tal che faceva. Oui, oui. E allora ho cominciato a nous donner des guerres che io parlavo francese. E la grande punizione era di fare delle linee. Et si bien, je suis français, donc je parle français.
Ah, d'accord. Et comment entendiez par dit la cour, une classe, dans le cas où tu
ne pas. Même dit la cour, enfin, mais ils n'ont pas écouté.
Oui, 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 oui.
Mais c'est un babo qui parlait, c'est l'Occitane, me disait, on a ni qu'ici, si je parle français. Monsieur Prouvel, et ça, que chevel. E che se parla l'Occitano può far passare il certificato.
Ancora un certificato era Ricone?
Era il certificato era Ricone, era il suo ragno. Anche a me è francisato. Non me ne ho mai più in mezzo al paese.
A cos'era la prima partita della conferenza di Michel Lafon a proposito di l'école e l'Occitano en Aveyron, de l'interdit à l'apprentissage. Fuguet registra de l'Ussiès de Juliette de 2014 à l'Universitat Occitane d'Estio de Nimes, organisado per la Marpoc.